Du coup, oui, ça va être assez d'une part partielle et d'autre part partielle. Parce que donc le but de cette introduction, c'est de voir comment on peut comprendre le fonctionnement de l'accumulation du capital, donc comment de plus en plus de valeur est générée et accumulée, produite. Comme ça ?
Ouais, sinon ça te fait une barbe. Hein. reprends du début, excuse-moi.
De comprendre comment l'accumulation fonctionne, comment de plus en plus de valeur est produite, accumulée, etc. Et de voir aussi que cette valeur, la manière dont elle est produite, a priori, ne pose pas de problème pour la réaliser. Le fait qu'il y ait tout le temps de la valeur supplémentaire produite ne génère pas de problème d'achat des nouvelles marchandises produites, etc. Donc, mon exposé va être du coup partial parce que je vais présenter donc les schémas de reproduction qui sont présentés par Marx dans le livre 2 du Capital, mais je les présente d'une manière un peu révisée à la suite de Grossman et Matic surtout, notamment parce que Marx fait une hypothèse que je ne partage pas, en tout cas pour une exposition simple, à savoir que les capitalistes reconsomment pour eux-mêmes une partie de la plus-value. Et je pense que c'est plus compréhensible de ne pas intégrer cette consommation personnelle au schéma et de considérer de la manière la plus simple possible que les capitalistes consomment toute la plus-value pour racheter des moyens de production. Ça, effectivement, ce n'est pas une hypothèse de Marx. Bon, donc, je préfère le dire pour qu'il n'y ait pas de surprise et aussi parce que c'est quelque chose qu'on trouve chez d'autres auteurs. Et c'est aussi, disons que c'est une, à l'origine cet exposé, ce qui m'a intéressé à travailler ces schémas-là, c'est justement la manière dont ils permettent de se confronter aux théories sous-consommationnistes, donc les théories qui posent pour principe qu'un des problèmes, et notamment une cause des crises, ce serait la sous-consommation ouvrière et donc le fait que les marchandises ne se réalisent pas sur le marché. Donc c'est dans cet esprit-là que je vais présenter. Et donc, bien sûr, s'il y a des désaccords, on pourra en discuter ensuite. Avant de commencer, comment l'exposer lui-même, ça a pour vocation à être pédagogique. Et donc, à mon avis, le moins académique ce sera, le mieux ce sera. Donc si vous avez des questions, ou si vous voulez interrompre l'exposé pour, s'il faut remontrer des diapos, ou s'il y a une définition à reprendre, ou si vous, enfin, n'importe quoi, je pense que ce serait aussi intéressant d'avoir une discussion que simplement un exposé, et puis d'en discuter après. Donc n'hésitez pas à interrompre l'exposé. Il y aura toujours moyen de reprendre les choses où on les a laissées. Pour commencer, je me suis dit que peut-être tout le monde n'était pas familier de la théorie de la valeur marxiste, donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant de refaire un petit point sur la théorie de la valeur. Si c'est le cas, je me lance. Alors, donc l'idée de la théorie de la valeur chez Marx, c'est que toute la valeur est produite par le travail. C'est le travail humain qui permet de mesurer les marchandises et d'estimer la manière dont elles vont s'échanger entre elles. Et donc c'est la quantité de travail qui est socialement nécessaire pour produire un bien qui permet son estimation sur le marché, donc qui va déterminer sa valeur d'échange. La particularité de Marx par rapport à la théorie, disons, plus classique de la valeur travail, c'est qu'il introduit donc le concept de force de travail. La force de travail, c'est une marchandise un peu particulière parce que c'est le seul élément qui est en capacité de générer plus de valeur que lui-même n'en consomme. Donc il va céder plus de valeur aux marchandises qu'elle-même n'en aura consommé. Cette théorie de Marx est à l'origine, donc, elle peut se matérialiser comme, c'est une théorisation de la journée de travail du salarié, de comment elle se répartit entre la reproduction de cette force de travail et le surplus. Et c'est à partir de cette théorie-là que Marx va être en mesure de théoriser l'exploitation capitaliste. Alors, sous tout mode de production, si tant est qu'il soit un tout petit peu développé, c'est-à-dire qu'on soit en capacité de reproduire sa force de travail en un peu moins de temps qu'on en met pour simplement vivre, il y a toujours du surplus qui est généré par le travail humain. Et le progrès des techniques permet de finalement d'augmenter ce temps de surplus, parce qu'au fur et à mesure qu'on progresse, que la productivité progresse, on a besoin de moins en moins de temps quotidien pour reproduire sa force de travail. Simplement parce que les marchandises qui permettent de se nourrir, de se vêtir, etc. sont moins longues à produire, avec une plus grande productivité du travail. Et la particularité du capital, qui va générer finalement un bon quantitatif dans l'exploitation du travail humain, c'est que le surplus va pour l'essentiel être réintégré dans de nouveaux procès de production sous forme d'investissements supplémentaires. Avec l'idée que le fait qu'une partie du travail soit captée par le capitaliste va permettre d'améliorer petit à petit la technique, et donc d'augmenter la productivité, d'abaisser petit à petit le travail nécessaire, et donc de toujours augmenter le surtravail, l'accumulation, la valeur produite, et d'abaisser le travail humain à son minimum pour vivre. Voilà un peu la théorie générale. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle permet donc de poser la journée de travail comme une répartition entre le travail nécessaire qui est indispensable pour assurer la survie des travailleurs, et même de la société entière, et une partie qui est, disons, supplémentaire, qui permet de développer à nouveau les techniques, qui permet d'entretenir du travail improductif, qui permet à toute la partie de la société qui ne travaille pas de consommer également. Et ça, c'est le surtravail.
Excuse-moi, c'est quoi que tu appelles du travail improductif ?
Oui, alors le travail improductif, ça va être, ce serait plus simple si j'avais les schémas, mais pour le dire simplement, c'est tout le produit du travail qui ne va pas réintégrer un procès de production ensuite. Comme on va le voir ensuite, la nourriture que le travailleur consomme, elle est destinée à réintégrer le procès de travail sous forme de force de travail. Les machines que le capitaliste les matériaux que le capitaliste utilise sont destinés à retourner dans le procès de travail, dans un futur procès de travail, et donc vont retransmettre leur valeur. Tout ça va permettre d'augmenter la valeur produite de cycle en cycle. Et le travail improductif, c'est la partie du travail qui s'échappe de l'accumulation. Par exemple, à mon avis, le cas le plus simple, c'est tout ce que le capitaliste va consommer pour lui-même. S'il s'achète une Ferrari, par exemple, ça ne retournera pas au procès de production comme valeur, vu que lui-même ne travaille pas. Les armes ne retournent pas dans le procès de production, donc c'est aussi du travail improductif. C'est la définition que je prends de travail improductif à partir donc des schémas que je vais présenter. C'est un peu tautologique peut-être, mais est-ce que ça répond à la question ?
Oui, je suis bien embrouillée pour comprendre.
Il faut bien comprendre que productif et improductif, il ne faut pas confondre improductif avec inutile et productif utile. Il faut bien faire cette différence-là.
C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
C'est-à-dire qu'improductif, ça veut dire qu'il ne permet pas d'accroître les capacités productives.
Donc les dividendes aux actionnaires, par exemple, c'est de l'improductif.
Tout à fait.
D'accord.
Oui. Parce que ça va s'échapper du procès de travail. Et
mais
c'est...
en même temps, les dividendes qui sont distribués à d'autres entreprises qui vont s'en servir pour investir, ça
oui,
peut être productif.
Oui, d'accord, j'ai compris.
Voilà.
Et Quentin, tu...
C'est ce que j'allais dire si le dividende permet de réinvestir dans le capital, c'est productif. Enfin, oui, mais du coup, c'est ce qu'il a
oui,
fait.
Et, mais par exemple, le commerce qui n'accroît pas la masse de valeur produite est improductif, mais il est quand même indispensable, donc ça ne préjuge pas effectivement du caractère indispensable ou pas. Seulement, disons que dans le cadre de ces schémas, je considère que le travail productif, c'est... Comme tu l'as dit, le travail qui permet d'accroître encore plus la valeur produite, donc il va toujours se retransmettre dans un nouveau procès de travail, tout simplement. Donc en tout cas, voilà une journée de travail individuelle. Donc nous avons notre salarié qui travaille 8 heures par jour. Il travaille 5 heures à produire des marchandises qui... cette valeur produite représente la valeur dont lui il a besoin pour vivre. Elle va donc lui être rétrocédée comme salaire. Puis il travaille encore 3 heures, pour ainsi dire gratuitement, pour son employeur qui lui empochera ce surtravail et ensuite pourra le réinjecter dans les capacités productives. C'est l'hypothèse que je retiens, il peut en faire n'importe quoi, il peut s'acheter une Ferrari avec, mais nous on va imaginer qu'il réinvestit tout parce que c'est plus simple en fait. Après, ça va juste être une question d'amplitude de l'accumulation. Mais... Donc voilà la journée de travail individuelle. Alors, sous le capital, la caractéristique, c'est la division du travail. Ça veut dire que l'ouvrier ne va pas produire, par exemple, du blé pendant 5 heures pour le manger, et après changer d'outil et se mettre à produire des tracteurs pour le capitaliste, pour lui faire des outils de travail. En fait, le travail va être réparti d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui vont travailler, disons, vu que le taux d'exploitation, donc vu qu'on a 3 heures ici, 5 heures là, sur 8 ouvriers ou ouvrières, 5 vont travailler à produire du blé ou des moyens de consommation, et 3 travailleront à produire des moyens de production, des tracteurs, etc. Ensuite, on va voir qu'il y aura des échanges entre ces deux sections qui permettent aux capitalistes de cette section-là d'acheter aussi les moyens de production qui ont été produits ici, et aux ouvriers qui travaillent pour produire, par exemple, des tracteurs, d'acheter de quoi se nourrir auprès des capitalistes de cette section-là. Et toute l'idée des schémas de reproduction de Marx, c'est de montrer comment les échanges ont lieu entre ces deux sections et les implications que ça a sur la dynamique générale du capitalisme. Ce qui est très intéressant, c'est que ici, en fait, dans l'idée de diviser comme ça la journée de travail de toute la société, on se retrouve avec, d'un côté, des biens qui sont physiques, c'est-à-dire tous les biens de consommation que des travailleurs sont susceptibles d'acheter pour leur reproduction personnelle. Donc physiquement, ça se présente comme des moyens de consommation. Techniquement, pour le capital, ça va se présenter comme du capital variable, c'est-à-dire comme des salariés qui vont se renouveler, qui pourront réembaucher plus tard. Et politiquement, ça va représenter la part des salaires qui sont disponibles pour les ouvriers. Vu que l'hypothèse est que tous ces biens se présentent physiquement comme des moyens de consommation pour les ouvriers, il faut que ce soit eux qui les achètent. Et donc, on leur donne les salaires qui permettent de réaliser cette partie de la journée. Et ça correspond donc à la partie qui est payée sur leur journée de travail. Ici, au contraire, donc on a physiquement des moyens de production, donc par exemple des pioches, des tracteurs, des avions, de la laine, des choses qui ne sont pas encore propres à la consommation des travailleurs. Ils vont être achetés avec le profit, donc ça représente la part des profits dans une économie. Et surtout, comme c'est physiquement des moyens de production, ils représentent la base qui va permettre, sur un futur cycle de production, la base technique de ce futur cycle, c'est-à-dire... c'est physiquement les moyens de production qui vont être réutilisés par les capitalistes pour réenchaîner un cycle de production. Est-ce clair ? Résultat, on peut poser une équivalence un peu comme ça. Si jamais vous en avez besoin dans le cours de l'exposé, je pourrais remettre la diapo. Avec l'idée que le secteur 1, c'est un triple rapport, donc c'est la valeur des moyens de production nouvellement produits, donc tous les nouveaux outils de production, tandis que le secteur 2, ça va être la valeur générale de tous les biens de consommation qui ont été nouvellement produits. Rapport politique, le secteur 1, c'est la part des profits, le secteur 2, c'est la part des salaires. Et rapport technique, le secteur 1, c'est le capital constant, donc tout le futur, tous les futurs outils qui vont être utilisés à nouveau par le capitaliste dans un procès de travail, outils ou capital circulant, c'est-à-dire les matières premières, etc. Et le secteur 2, ça va être tout le capital variable du futur cycle, c'est-à-dire la base des employés qui se seront renouvelés pour rentrer à nouveau dans la production. Alors, la problématique de l'exposé, ça va être grosso modo de montrer que le but du capital, c'est toujours de diminuer la part du secteur 2 dans l'économie et toujours d'augmenter la part du secteur 1. Parce que ça correspond à ce double rapport, à la fois d'augmenter les profits par rapport au salaire, c'est le but de n'importe quel capitaliste, et aussi d'augmenter la productivité du travail, parce qu'en augmentant la taille du secteur 1, on augmente le nombre d'outils, le nombre de temps de production qu'un produit passe dans un procès de production. Donc on augmente la quantité, la qualité de tout ce qui est produit. Donc on augmente la productivité en augmentant le secteur 1 au détriment du secteur 2. Et le but de l'exposé, donc, ça va être de voir comment ça c'est possible, comment on peut avoir une société qui fonctionne avec un secteur 2 qui se réduit de plus en plus sans que ça pose jamais priori, disons, théoriquement, sans que ça pose de problème de réalisation, c'est-à-dire sans qu'il y ait de problème pour acheter toutes ces marchandises. Donc je vais procéder en plus ou moins trois petites parties. Déjà, je vais montrer des petits schémas que j'ai appelés, enfin, qui s'appellent chaînes de valeur, qui suivent le parcours d'une marchandise d'un point zéro jusqu'au moment où on la consomme, jusqu'au moment où elle est prête à être consommée dans un supermarché. L'idée là, c'est de comprendre un peu ce paradoxe qui fait qu'une marchandise, a priori, elle a plus de valeur à la fin du procès de production qu'au début. Quand on la consomme, elle a plus de valeur qu'à chaque étape qu'elle a subie pour arriver jusqu'à nous. Et en même temps, du coup, comment on comprend que le secteur 2 puisse être de plus en plus petit, que nous, on est de moins en moins de ces marchandises et qu'il y en ait de plus en plus qui soient aux mains des capitalistes. Donc c'est un peu pour répondre à ce paradoxe que je montre ces chaînes de valeur. La deuxième partie, on va revenir au schéma. Donc pour l'instant, on va les mettre un peu de côté, les schémas que j'ai rapidement montrés. Et on y reviendra dans la deuxième partie pour montrer que l'objectif du capital, c'est donc jamais de produire des biens de consommation, c'est jamais de répondre à un besoin de consommation, mais c'est toujours d'augmenter simplement la valeur qui est totalement produite. Et pour ça, c'est de l'augmenter en augmentant la part des profits. Et surtout, ça va nous permettre de voir que finalement, il n'y a jamais de consommation finale dans ce système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où la valeur disparaît parce qu'on l'a mangé ou qu'on l'a acheté. Elle continue toujours de se renouveler dans le processus de production. Et troisième partie, ce sera pour voir comment les crises arrivent dans un tel modèle. Vu qu'on fait l'hypothèse que les crises n'arrivent pas parce qu'il y a un problème sur le marché, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour acheter les marchandises, etc. Donc on va voir un petit peu la différence entre crise de sous-consommation et crise de surproduction. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors je passe aux chaînes de valeur. Alors, on va s'intéresser juste au schéma d'en haut. Donc l'idée de ces schémas, l'idée est que ce soit assez spontané, assez simple à comprendre, même si ça a l'air gribouillé. Donc, l'idée est simple, on part d'un point zéro où il n'existe pas de marchandise, et on arrive à un point final où la marchandise est commercialisée pour de la consommation. Entre-temps, cette marchandise, elle passe par trois procès de production différents, donc elle va passer entre les mains de trois capitalistes différents avant d'arriver à cet état-là. Par exemple, on peut imaginer que c'est un vêtement en laine, donc on aurait le capitaliste A qui a des élevages de moutons et qui tond les moutons. Il livre de la laine au capitaliste B qui, file la laine, qui vend des filets au capitaliste C qui, lui, tisse des vêtements et les vend sur le marché à des consommateurs lambda. Ça, c'est l'idée de base. Donc, comme vous voyez, c'est ici, on a un repère de valeur. Donc plus on est haut sur ce repère, plus il y a de valeur qui est sédimentée dans la marchandise. Et plus on est loin sur cet axe, plus le temps s'est écoulé. Alors, donc là, je vais présenter, les premières conclusions qu'on peut apparemment tirer de ces schémas, mais qui ne sont pas à prendre pour argent comptant, comme j'essaierai de le montrer après. Mais ce dont on a l'impression quand on regarde les schémas, c'est qu'il y a deux contraintes. D'une part, on a l'impression que la valeur, elle doit forcément se réaliser à la fin pour donner raison, finalement, à tous les procès de production qui ont existé avant. C'est-à-dire que on se dit, s'il n'y a pas assez d'argent pour acheter la marchandise ici, si personne n'achète le vêtement, finalement, tous ces procès de production-là, ils n'ont aucun sens. Donc, il faut qu'il y ait plus... il faut qu'il y ait de l'argent au bout pour acheter le vêtement, pour réaliser toute la valeur de tous les procès de production. Et puis surtout, oui, manifestement, cette partie-là, le secteur 2, qui correspond à uniquement ce bien de consommation qui est porté au marché, il est manifestement, il comprend plus de valeur que le secteur 1 qui comprend les deux autres capitaux. Est-ce que c'est clair ou... Disons qu'on a l'impression qu'il y a deux contraintes. D'une part, il faut qu'il y ait assez d'argent au bout. Et d'une part, on a l'impression qu'il faut forcément que la part de la consommation directe soit plus importante que la part des investissements qui ont été nécessaires pour produire la marchandise. « Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, les capitalistes A et B appartiennent au secteur 1, forcément, vu que eux, ils ne font que vendre des moyens de production à d'autres capitalistes. Tandis que le capitaliste C, comme il vend son produit à n'importe qui, et possiblement à des travailleurs, lui, il appartient au secteur 2. Donc,
comme bien de consommation. Il vend quoi,
ouais, c'est ça. Il vend des biens de consommation.
Je suis pas sûr que ce soit explicité que le... Enfin, si je comprends bien, les plus c'est du capital constant, et c'est les machines, et la partie rayée c'est du travail.
Oui, exactement. En fait, quand le procès de production commence, bon, le premier capitaliste a un peu d'outils, enfin, forcément, au moins il a des moutons. Il embauche des salariés qui vont passer tant de temps à produire finalement de la laine. Donc ça lui a rajouté tout ça de valeur. Toute la valeur vient du travail donc. Puis ce capitaliste B, lui, il rachète la laine, donc il a cette valeur constante qui va rester dans le produit, qui va transmettre sa valeur au nouveau produit. Et puis il réembauche des travailleurs qui eux, vont à nouveau travailler un certain temps. Tout ce temps va être incorporé dans la marchandise. Et quand il vend des filets au troisième capitaliste, bah, celui-ci rachète ce nouveau moyen de production, ça lui fait sa base constante, et lui, il réemploie des gens pour tricoter ou faire le pull. Donc, est-ce que les schémas sont à peu près clairs?
Oui.
Donc, moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que ces deux conclusions, à savoir qu'il faut forcément qu'il y ait plus d'argent au bout pour réaliser toute la chaîne, et puis qu'il faut que le secteur 2 soit plus grand que le secteur 1 pour que l'économie prenne sens, je voudrais montrer qu'elles sont fausses, sans même sortir un petit peu de la manière de penser ces chaînes de valeur. Et pour ça, il faut passer d'une manière de penser ce schéma dans la succession, c'est-à-dire, disons, étalé dans le temps. Il faut imaginer qu'en fait, quand le capitaliste C vend son pull au vert, bah, le capitaliste A, lui, il continue à élever des moutons, et le capitaliste B, il continue à filer la laine. Donc, les trois procès de production ont lieu en même temps. On peut considérer qu'ils se reproduisent, voire même... Ce qui est un peu impropre et ce qui est un peu problématique dans ces schémas, c'est qu'au moment où le capitaliste C vend des pulls au vert, si A et B ont accumulé, ils ont même encore plus de valeur que ce qui est prévu dans ce schéma. Mais pour l'instant, on peut se contenter de ça et dire, bon, qu'est-ce qui se passe si ces trois procès de production, plutôt que d'avoir lieu l'un après l'autre dans le temps, ont lieu ensemble? Et ce qu'on se rend compte, c'est que si on additionne A et B, donc là, en fait, j'ai juste reporté cette partie-là ici, cette partie-là là, et cette partie-là là, ben on se rend compte que le secteur 1 est déjà plus important que le secteur 2. Et cette manière de considérer les choses, c'est-à-dire de reprendre non pas seulement la valeur qui a été ajoutée, mais tout, y compris la partie constante, ben c'est la manière assez courante de calculer un chiffre d'affaires, donc vous connaissez tout ça. Quand on calcule le chiffre d'affaires de Peugeot, on ne se demande pas seulement quelle a été sa valeur ajoutée, on prend la valeur de la voiture complète. Sauf qu'au même moment, il a un sous-traitant qui lui a produit le moteur et qui va lui aussi compter toute la valeur complète. Puis le sous-traitant du sous-traitant qui a produit les éléments du moteur. Et chacun compte son chiffre d'affaires comme ça, de manière séparée. Et finalement, ça prend sens parce que ces cycles de production ont lieu les uns après les autres. C'est pas une valeur qui a lieu en même temps. Et c'est pour ça qu'on peut les mettre, et en même temps, ils se reproduisent tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on peut les superposer. Pour montrer que ça, ça peut encore être, encore plus étendu, il suffit qu'on imagine qu'il y a une étape de production qui se rajoute, c'est-à-dire que le produit va devenir plus complexe. Par exemple, à la place d'avoir un simple pull blanc, on a un pull coloré. Donc il faut rajouter un capitaliste chimiste qui est spécialiste de la coloration. Et donc, le capitaliste D qui colore la laine, peut-être, je ne sais pas ce que fait le nouveau capitaliste au milieu, mais disons, on a rajouté deux capitalistes dans la boucle qui vont faire quelque chose de mieux avec la laine. Bah, eux, ils rachètent aussi des moyens de production et ils les revendent à un autre capitaliste, donc ils ne le revendent pas immédiatement sur le marché des biens. Donc, on va considérer que ces quatre premiers capitalistes sont tous de secteur 1, et si on additionne leurs quatre chiffres d'affaires, bah, on voit bien qu'il y a plus de valeur dans le secteur 1 que dans le secteur 2. Et c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir ce résultat paradoxal, qu'on a plus de valeur à la fin, parce qu'on a rajouté une étape de production, donc on va vendre des produits plus chers, et en même temps, on a diminué la part des salaires dans l'économie, donc on a augmenté le taux d'exploitation. C'est donc le deuxième exemple. Est-ce qu'il y a des questions ?
Là, sur cette question-là, si tu pouvais réexpliquer justement pourquoi la part des salaires est diminuée dans le secteur 1.
Enfin, en fait, les salaires ont pas diminué en eux-mêmes. Enfin, disons, on considère qu'on paye les salariés à la même échelle. Mais vu qu'on a fait l'hypothèse que le secteur 1, les moyens de production ne sont rachetés que par les capitalistes, que les moyens de consommation sont rachetés que par des ouvriers, ou des travailleurs, bah, ça veut dire qu'en fait, ça va être la part des salaires dans une économie, et ça va être la part du profit. Et si on additionne ces quatre branches, finalement, on se retrouve avec un taux de ça à ça qui est plus accentué sur les profits que là.
Si je peux aussi me permettre si c'est bon. Les salaires en fait baissent pas spécialement, mais comme il y a plus de technicité, comme il y a plus en fait de capital constant qui permet en fait de faire plus de pulls en moins de temps, il y a une augmentation du taux d'exploitation. Et donc là où l'ouvrier pour une heure de travail, du coup il produisait tant de valeur, pour une heure de travail il va en produire beaucoup plus de valeur. Et donc au niveau de son ratio de son salaire, finalement de ce qui lui extrait en plus-value, c'est la plus-value absolue si je ne dis pas de conneries, et du coup les salaires baissent entre plein de guillemets, mais c'est juste que c'est juste que l'extraction de cette plus-value elle est plus importante. Si ça va dans ce que tu étais en train de raconter, je suis pas sûre que c'était ça que tu racontais. Peut-être tu peux t'en parler pas.
En tout cas, l'idée générale est que quand on va complexifier un procès de travail, quand on va rajouter des étapes et faire, disons qu'au début, le salarié, il consomme du pain. Maintenant, le salarié, il consomme des smartphones. Donc on a évidemment beaucoup plus d'étapes de production dans un smartphone que dans du pain. Et la différence entre les deux, c'est que du coup, on peut à la fois consommer des produits de meilleure qualité. Enfin, objectivement parlant, je ne sais pas si c'est mieux de consommer des smartphones, mais en tout cas... des produits qui contiennent plus de valeur, mais en même temps, par la multiplication de ces étapes de production, par la complexification de ce produit, finalement, la valeur est restée localisée plus longtemps dans le secteur 1, et comme elle s'est transmise sous forme de moyens de production, on a une part de la valeur sur un seul cycle, c'est-à-dire si on compare à un moment T, toute la valeur où elle est localisée dans l'économie, une part qui est localisée dans les poches des capitalistes, qui est plus importante qu'avant quand on mangeait du pain. Mmh. Et c'est ce qui explique ce paradoxe, qu'on peut avoir à la fois une augmentation du niveau de vie, disons avoir l'impression de vivre mieux et plus confortablement, et en même temps une hausse du taux d'exploitation. Mmh.
Ouais.
Du coup, déjà là, on voit que ça remet en cause la contrainte de proportion entre les secteurs, à laquelle on était arrivé au début en se disant comme il y a plus de valeur ici, c'est que le secteur 2 est plus important que le secteur 1. En fait, donc on voit pas forcément. Et puis la deuxième contrainte qu'on avait vue, à savoir que la valeur doit se réaliser ici pour que toute la chaîne prenne sens, si on le prend comme ça, on voit bien qu'en fait la valeur elle est vraiment réalisée à chaque étape. Et donc chaque capitaliste, chaque fois qu'il apporte sa marchandise pour la vendre, soit à des capitalistes, soit à des travailleurs, il a besoin de la réaliser à chacune de ces étapes. Alors, pourquoi ça pose pas de problème? Le principe est que quand la valeur est produite, quand il y a ce travail qui s'est rajouté, il a été produit. Donc, il y a la valeur pour racheter la valeur, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. si j'arrive sur un marché, donc ça c'est ce que je vais vous présenter, ça s'appelle la loi de Say. On va voir après, dans la théorie des crises, qu'elle est critiquable par d'autres aspects, mais sur l'aspect réalisation, pour l'instant, on peut la conserver comme hypothèse. Donc, c'est l'idée que si moi je vais sur un marché, parce que j'ai travaillé une heure pour produire, un kilo de farine. Je vais sur le marché pour vendre mon kilo de farine, j'ai bien entre les mains la valeur de mon heure de travail. Donc, je suis en mesure de l'échanger contre une autre valeur qui a bel et bien été elle aussi produite. Donc, si, disons, tout ce système entre capitalisme n'était qu'un échange de troc, ils pourraient tous se vendre les uns les autres leur valeur produite. C'est-à-dire que le capitaliste E, du coup, qui est devenu E, avec son produit, il va pouvoir fournir des marchandises à tous les salariés de tous les procès de travail. Et inversement, donc tous les capitalistes ABCD vont pouvoir s'échanger les moyens de production entre eux, vont pouvoir échanger leurs moyens de production avec des biens de consommation qui leur permettent de réembaucher des ouvriers. Faut considérer pour l'instant que c'est comme un système de troc. Si la valeur est produite, normalement, elle peut s'échanger. Il n'y a pas de contraintes monétaires. Normalement, la monnaie est censée suivre ce mécanisme. On va voir après que Marx critique cette hypothèse de neutralité monétaire qui est associée à la loi de Say. Mais en tout cas, sur le principe que la valeur étant produite peut s'échanger sans qu'il y ait de problème de réalisation, on peut conserver cette hypothèse-là. Pour finir sur ces chaînes de valeur, donc l'idée c'était de montrer justement comment on peut comprendre qu'il y a un secteur 2 plus faible que le secteur 1, bien que la valeur finale de la marchandise soit plus grande. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste des schémas un peu problématiques pour penser réellement la dynamique d'accumulation, au moins pour deux choses, parce qu'il n'y a pas d'accumulation dans ce schéma, vu que si on prend les barres côte à côte, on ne comprend pas que le capitaliste A, depuis qu'il a vendu sa première laine qui a fait la marchandise de C, en fait, lui, il a déjà eu le temps de réaccumuler et d'avoir un procès de production plus étendu. Donc ça, c'est le premier problème de ces schémas. C'est pas le plus grave, mais à mon avis, ce qui est très trompeur dans ces schémas, c'est vraiment qu'il y a un début et une fin. Donc on a l'impression que la valeur commence là et qu'elle finit là. Or, comme on va le voir dans les schémas de reproduction, il n'y a jamais de fin à la valeur. Elle se retransmet, elle est reproduite, en fait, toujours. Dans une accumulation plus étendue. Donc ces schémas sont un peu problématiques, mais je pense qu'ils ont quand même une valeur pédagogique et qu'on peut en tirer quelque chose. C'est pour ça que je les présente. Je passe au schéma de reproduction. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Pas de questions? Alors, les schémas de reproduction. J'ai remis les petites équivalences pour... peut-être ça peut aider. Pour l'instant, ils ont l'air un peu plus complexes que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais il faut quand même toujours se dire que ça, c'est la part des moyens de production qui sont produits par la société, et ça, c'est la part des biens de consommation qui sont produits par la société. Pour l'instant, sans voir les dynamiques d'échange. Alors, l'idée générale des schémas, donc chez Marx, c'est de montrer qu'au niveau du capital social, ne comptent pas seulement les rapports de valeur entre les choses, mais comptent aussi les rapports de nature. C'est-à-dire que la société a besoin de reproduire en nature ce qu'elle a consommé. Un capitaliste ne peut pas remplacer une faux par une chaussure dans un procès de production. Donc, il y a un minimum de rapports de nature, de rapports physiques entre les choses qu'il faut reproduire. Et pour Marx, il y a un seul rapport physique qui compte fondamentalement sous le capital, c'est la différence entre moyens de production et biens de consommation, qui joue un rôle différent dans l'accumulation. Donc c'est un peu le sens des schémas, c'est pour Marx de montrer comment tout ça s'organise, comment ça explique les dynamiques d'accumulation et comment les échanges se font entre ces deux secteurs de la société, donc le secteur qui produit les moyens de production et le secteur qui produit les biens de consommation. Alors, Marx formule trois hypothèses par rapport au schéma. Donc, la première est la plus compliquée. C'est l'idée qu'on fonctionne uniquement en économie fermée. Donc, il n'y a pas de l'argent, de la valeur qui s'échappe ailleurs. Il n'y a pas d'autres modes de production que le capitalisme qui rentrent en compte dans ces schémas. Il n'y a pas d'autre classe sociale que capitaliste et ouvrier. Et notamment, il n'y a pas non plus les classes improductives, soit qui dépendent d'autres modes de production, soit qui sont spécifiques aux modes de production capitaliste, par exemple les banquiers. Ils ne sont pas compris dans le schéma parce qu'ils ne jouent pas un rôle direct dans l'accumulation. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ça veut dire que pour l'instant, on les met ailleurs et on ne les considère pas dans les schémas. Pourquoi on fait ça comme ça ? Parce que l'idée des schémas, c'est pas de s'intéresser uniquement à des marchandises physiques, c'est-à-dire c'est pas uniquement de savoir si on échange des tracteurs ou des bottes, mais c'est aussi de savoir comment s'échangent des facteurs de production entre eux. C'est de savoir comment, comment se sont produits et se constituent, d'une part de la force de travail dans le secteur 2, et d'autre part des moyens de production dans le secteur 1. Et ce qui va vraiment nous intéresser avec ces schémas, c'est de voir comment ces deux facteurs sont reproduits, se réintègrent dans de nouveaux process de production. Et c'est pour ça qu'on ne considère pas les autres rapports qu'il y a autour. Parce que pour l'accumulation, il n'y a besoin que de ces deux facteurs, capital et travail. Voilà la première hypothèse. La seconde, c'est une hypothèse simplificatrice, c'est qu'on remplace tous les ans tout le capital fixe, donc toutes les machines, tous les bâtiments, rien ne subsiste. C'est une hypothèse simplificatrice. Donc ça correspond un peu à l'idée tout à l'heure qu'il n'y a finalement que du capital circulant, que des matières premières finalement qui s'échangent, vu que si on prend une base annuelle, on considère qu'au bout d'un an, on va tout changer. C'est simplificateur, mais en fait, ça ne changerait rien parce que si on voulait considérer qu'il y a du capital fixe qui subsiste, il suffirait d'ajouter une partie constante et ça ne changerait rien sur les rapports variables. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est que comme ces schémas sont à l'équilibre, qu'il n'y a pas de troisième secteur improductif, les prix sont équivalents aux valeurs. Donc on a là des rapports valeur-prix complètement équivalents, et c'est aussi une hypothèse simplificatrice. Alors, pour présenter un peu d'abord les schémas de manière statique, donc on a là... En fait, on se place à la fin d'un cycle de production et on regarde ce qui a été produit à la fin d'une année, par exemple. Dans le secteur 1, sont produits des marchandises physiques, mais qui elles-mêmes représentent tout le capital constant qui a été nécessaire pour les produire, tout le capital variable qui a été nécessaire pour les produire, et toute la plus-value supplémentaire qui a été produite. Donc physiquement, là, on a plus de marchandises qu'au début de l'année passée, parce qu'il y a de la plus-value qui est contenu ici. Pareil ici, on se place à la fin du cycle de production, on regarde ce qui a été produit, et dedans il y a du travail payé, du travail non payé, plus l'investissement du capitaliste qui a été fait au début de l'année. Et ça représente toute la valeur. Est-ce qu'il y a besoin que j'explique mieux cette hypothèse ? Ce qui nous intéresse beaucoup par rapport aux chaînes de valeur, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de début ni de fin de la consommation. Tout ce qui a été produit là est destiné à se réintégrer dans un nouveau cycle de production comme capital variable, et tout ce qui a été produit là est destiné à se réintégrer dans un nouveau cycle de production comme capital constant. Donc contrairement à l'idée que quand on consomme un produit, on interrompt le cycle, en fait, quand on consomme un produit, si on a un travailleur, on va retransférer cette valeur qu'on a incorporée pour reconstituer notre force de travail, on va à nouveau la remettre au service d'un cycle de production. Donc, le capital fonctionne comme une spirale, c'est-à-dire que la valeur est sans cesse de plus en plus accumulée, donc ça augmente toujours l'accumulation, donc il n'y a jamais de fin à la consommation. Toute la consommation qui est comprise dans ces deux schémas est finalement de la consommation productive. Ensuite, comment fonctionnent concrètement les échanges entre les schémas ? Donc l'idée, c'est que les capitalistes du secteur 1 ont produit des moyens de production, les capitalistes du secteur 2 ont produit des moyens de consommation. Les capitalistes du secteur 2 vont devoir racheter des moyens de production au secteur 1, et les capitalistes du secteur 1 vont payer des salaires à leurs ouvriers qui vont permettre à leurs ouvriers de réaliser les marchandises qui ont été produites en secteur 2. Donc j'ai représenté cette dynamique d'échange avec les petites croix. Donc ça, c'est la partie des salaires qui a été versée aux salariés du secteur 2, la partie des salaires qui a été versée aux salariés du secteur 1. À L2, ces deux parties réalisent complètement la valeur du secteur 2. Et en blanc, c'est ce que le secteur 2 aura besoin comme capital constant pour recommencer un cycle de production. Pareil dans le secteur 1. Et donc là encore, on voit que toute la valeur est réalisée. Sachant que les capitalistes du secteur 1 s'échangent entre eux leurs moyens de production, et que dans le secteur 2, le fait qu'on paye des salaires, ça permet aussi de réaliser entre les différentes branches tout ce qui est nécessaire de réaliser. Alors, une remarque, c'est que c'est pas nécessaire de... Moi, j'ai fait ça, c'est tracé au plus simple. C'est pas du tout nécessaire qu'on ait les mêmes rapports entre les deux sections, parce que dans le capital, le secteur 1 et le secteur 2 ne sont pas destinés à évoluer de la même manière. Ils peuvent le faire, mais par principe, si à chaque fois que, qu'un capitaliste rachète une machine, il met le même nombre d'ouvriers dessus que précédemment, bah finalement, il augmente juste la quantité globale de valeur en augmentant le nombre de facteurs de production. Et lui, son intérêt, ce serait plutôt de substituer du capital au travail, donc de faire en sorte que les nouvelles machines fonctionnent avec moins d'ouvriers ou remplacent des ouvriers, pour augmenter la productivité du travail. En augmentant la productivité du travail, bah, comme on l'a vu, donc, ce qui correspond à un gonflement du secteur 1 et à une restriction du secteur 2, bah, en fait, augmenter la productivité du travail, concrètement, ça veut dire qu'on va baisser la valeur des produits qui sont nécessaires à la consommation des travailleurs. Si les travailleurs mangent du pain, et que pour produire le pain, il fallait une heure par kilo, et qu'après l'introduction de nouvelles techniques, par exemple d'un tracteur, il ne faut plus que 30 minutes par kilo, bah, on peut baisser les salaires d'autant, puisque la personne a toujours autant de pain avec un salaire moindre. Ça, ça permet encore plus d'avoir une accumulation élargie. C'est le mécanisme de la plus-value relative. Donc l'idée est également que plus la section 1 va être étendue, plus la reproduction va être dynamique, plus l'accumulation va être dynamique, justement parce que la quantité de facteurs de production du secteur 1 qui vont être réintroduites dans un nouveau cycle de production détermine le niveau de la productivité du futur cycle. Donc plus le nombre de moyens de production produits est important et plus la part des salaires est réduite, plus on va augmenter la productivité du travail et augmenter l'échelle de la reproduction. Et en même temps, dans la mesure où il n'y a que la force de travail qui est en mesure de créer une nouvelle valeur, on va aussi abaisser le taux de profit. Donc avec ces schémas-là, on a les hypothèses principales de la dynamique d'accumulation. On voit à la fois la tendance à augmenter la productivité du travail, à abaisser le taux de profit, à augmenter le taux d'exploitation, et éventuellement, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas contradictoire avec le fait d'améliorer le niveau de vie. Et donc, encore une fois, il n'y a pas nécessairement de problème de réalisation de la valeur, puisque les échanges permettent d'équilibrer les rapports entre sections. Donc, y a-t-il des questions ? Non. Donc, j'ai fait une liste de tout ce qu'on peut tirer des schémas de reproduction. D'une part, il n'y a pas de contrainte de réalisation qui soit liée à la taille respective du secteur 1 et du secteur 2. Donc, on pourrait très bien avoir un secteur 2 beaucoup plus gros, ce qui d'ailleurs correspond au premier stade du capitalisme, quand il y a très peu de moyens de production et où la consommation se fait avec des produits courants assez simples. Et on peut très bien avoir un secteur 2 tout rikiki et il n'y aura toujours pas de problème de réalisation. Ensuite, la tendance générale, donc comme je l'ai dit, ça va être le gonflement du secteur 1 par rapport au secteur 2. Parce que l'accumulation permet de réenclencher, enfin de reproduire de nouveaux investissements. Et il y a toujours cette tension pour augmenter le niveau des profits par rapport au niveau des salaires. En conséquence, la demande globale de la société, la demande pour des biens, quels qu'ils soient, augmente toujours. Mais en fait, plus on va s'avancer dans l'histoire du capital, plus la demande va être tirée par les investissements, plutôt que par la consommation, on va dire, si on était limité, plutôt que par la consommation des ménages. Et enfin, la hausse du niveau de vie, elle dépend aussi du gonflement de ce secteur 1, et des luttes qui sont liées aussi pour maintenir le niveau des salaires. Mais en tout cas, elle n'est pas contradictoire avec le gonflement du secteur 1, ce qui nous fait dire que le taux d'exploitation le plus important, il sera obtenu dans les zones où l'accumulation du capital, donc le secteur 1 le plus gros, sera la plus importante, et aussi où le taux d'exploitation sera le plus grand. Ce qui peut paraître paradoxal, au premier abord. Donc, j'ai fini ma partie sur les schémas. Est-ce qu'il y a des questions sur les schémas ? Donc, bon, une fois qu'on en est là, on se dit, bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les capitalistes grossissent, ils ont de plus en plus de capital. Les gens sont de plus en plus exploités, mais en même temps, ils sont heureux de l'être parce qu'ils consomment de mieux en mieux. Et la question, c'est où est le problème et d'où viennent les crises ? Alors, l'idée de cette démonstration, c'est en fait de montrer qu'il n'y a pas de... n'y a pas de bon capitalisme, qu'il n'y a pas un capitalisme qui rendrait tout le monde heureux en donnant plus de salaire aux gens. On voit bien que la tendance, et ce qui permet au capitalisme de bien fonctionner, c'est tout le temps d'accroître le niveau d'exploitation, donc d'accroître la pression sur le procès de travail. C'est un peu le but. Mais donc, pour en revenir à la question, donc, d'où viennent les crises dans ce schéma où la puissance de consommation de la société est toujours égale à sa puissance de production. Donc il n'y a jamais de déséquilibre entre les deux. L'origine, si elle n'est pas dans le marché, elle est à chercher dans la production. Et l'hypothèse qu'on peut faire, c'est donc que c'est la baisse du taux de profit qui est à l'origine des crises. Et pour comprendre comment ça fonctionne, en reprenant ce qu'on a déjà vu, on repart sur la loi de Say et on va voir ce qui ne va pas dans la loi de Say. Donc l'idée de Say, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est j'arrive sur un marché avec ma valeur, comme je l'ai déjà produite, je peux réaliser d'autres valeurs qui ont été produites et moi repartir avec de la valeur supplémentaire. Donc c'est de concevoir l'échange capitaliste comme un système de troc dans lequel la monnaie n'aurait qu'une fonction neutre de facilitateur des échanges. Donc pour Say, d'une part le système est statique, c'est-à-dire qu'on en est toujours au même point. On ramène des produits, on repart, on ramène, mais il n'y a pas de changement qualitatif entre les différentes étapes. Il n'y a pas d'histoire de ces échanges. Deuxième point, chez Say, il n'y a pas de considération pour les objets qui sont échangés. On s'en fiche que ce soit des produits de consommation ou des moyens de production. Et puis, donc dernière hypothèse, la monnaie est neutre. Et ça, c'est les trois hypothèses qui font le système de Say et que Marx va critiquer. Que le système de Marx est tout à fait le contraire. D'une part, comme on l'a vu, il y a une histoire de ces échanges, c'est que il y a de plus en plus de biens de production qui sont échangés. Évidemment, on fait donc attention à la nature des biens échangés et on distingue les biens de consommation des moyens de production. Et puis, troisième élément qui est indispensable pour comprendre comment arrive la crise, c'est que la monnaie, elle peut être perturbatrice, c'est-à-dire que en fait, elle n'est pas destinée à faciliter les échanges uniquement, elle peut très bien être conservée dans la poche pour des temps meilleurs. Donc, à un moment, il n'est pas impossible que n'importe quel capitaliste se retire du marché après avoir vendu sa marchandise sans lui-même en racheter une nouvelle. Et à partir de ces trois hypothèses, on peut du coup théoriser une autre manière d'envisager les crises que simplement le fait qu'il n'y aurait pas assez de demandes sur un marché. Alors, cette idée, c'est donc, comme on l'a vu au tout début, toute la valeur vient du travail. Si le secteur 1 s'accroît, ça veut dire que tout investissement nouveau dans un procès de production passe par le fait qu'il faut investir de plus en plus dans des moyens de production qui ne produiront aucune valeur. Ils vont retransmettre leur valeur, mais eux-mêmes, ils n'en produiront aucune. La seule valeur qui est produite, c'est celle qu'on obtient des travailleurs. Donc, plus cette histoire du mode de production capitaliste se prolonge, plus pour reprendre un procès de production, on met sur la table une plus grande part de moyens de production. Plus la part du coût de la plus-value qu'on va pouvoir obtenir par rapport à l'investissement total se réduit. Est-ce que... Donc ça signifie que au fur et à mesure, l'espoir de gain du capitaliste, donc son taux de profit, c'est-à-dire ce qu'il peut espérer obtenir par rapport à l'investissement total qu'il met sur la table, se réduit. Et donc, l'idée est qu'il n'est pas impossible qu'à un moment donné, le capitaliste estime que le taux de profit qu'il peut attendre d'une nouvelle mise en valeur de son capital va être trop faible. Il vend sa marchandise et puis lui, il garde la monnaie dans sa poche. La cause qui fait qu'il garde la monnaie dans sa poche, c'est pas qu'il n'est pas en capacité de racheter des nouveaux produits. C'est que le taux de profit est si faible qu'il n'a aucun intérêt à relancer un procès de production à ses risques et périls. Bon, il y a plusieurs manières de compenser la baisse du taux de profit. Mais c'est pas le sujet. En tout cas, au bout d'un moment, cette tendance s'affirme, et donc de plus en plus de capitalistes gardent leurs sous dans leur poche. Et ça se manifeste donc non pas en biens de consommation qui sont invendus, comme ce serait le cas si le problème venait de salaires trop faibles ou d'un problème de demande des ménages, mais il se manifeste d'abord sous forme de moyens de production invendus. Donc les symptômes de ce blocage, ça peut être de plusieurs sortes. Ça peut être une chute du niveau d'investissement. Donc on voit que les investissements chutent. Ça peut être une pléthore de moyens de production qui sont invendus, parce que plus de capitalistes ne veulent les racheter. Dans ces moyens de production invendus, ça peut aussi être de la force de travail qui est inemployée, donc une hausse du chômage, Parce que si on ne reprend pas un procès de production, on n'a pas besoin de réemployer cette force de travail. Et le fait que l'argent reste dans la poche du capitaliste se manifeste aussi en gonflement des bulles de crédit, des bulles spéculatives, etc. Parce que plutôt que de le garder dans sa poche, si on lui promet 15% à côté en le mettant en bourse, bon bah tant qu'à faire, il va le mettre à côté. Donc quand on voit ce type de phénomène se multiplier, chute du niveau d'investissement, augmentation du chômage, ou moyens de production invendus, bulles spéculatives, tous en même temps, ou seulement un de ces phénomènes, on peut commencer à se dire que ça sent un peu le roussi et qu'il va y avoir une crise.